Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Julie Lerouge. Elle était une adolescente à la fois timide et révoltée contre Dieu, et ce dernier en a fait un apôtre de feu pour proclamer sa gloire et rassembler dans l'unité tous les chrétiens. J'ai voulu en savoir plus sur ce qui a fait basculer la vie de celle qui, à 23 ans seulement, a déjà fondé un festival œcuménique baptisé Amène-toi et publié un livre « Marque ta génération ». Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors merci de m'avoir fait une petite place dans votre emploi du temps ultra chargé. On aura l'occasion d'en reparler, mais je crois que le témoignage de ce que le Seigneur a fait pour vous vous tient à cœur. Et c'est pour cela que vous êtes là.
Oui.
Alors, pour commencer, pourriez-vous me présenter l'objet symbolique de votre histoire, s'il vous plaît?
Alors, moi, je ne suis pas très attachée aux objets. Et je crois que l'objet auquel j'étais le plus attachée, c'était ma petite Bible, qui était aussi devenue un peu un cahier de coloriage, d'une certaine manière, où tous les versets étaient surlignés. Et lors d'une mission en septembre, j'ai perdu ma Bible. Donc voilà, donc là ça a été...
crève-cœur.
Exactement.
Le Seigneur a voulu vous encore vous décaper encore plus, parce qu'on va voir au fur et à mesure de votre histoire que le Seigneur vous a bien décapé, je crois, il vous a apporté énormément. Pour qu'on comprenne bien, dites-nous dans quelle famille avez-vous été élevée? Est-ce qu'elle était croyante ou pas?
Alors non, ma famille n'était pas croyante du tout. Moi, je dirais que j'étais athée et on a été élevés donc avec mes frères, parce que j'ai deux frères. On a été élevés, on a fait notre baptême, notre première communion, profession de foi. Et puis après, on a eu le choix avec la confirmation parce qu'on était assez grands. Et en fait, c'est que du côté de mon papa, c'est une famille de tradition plutôt vieille noblesse française avec... une part un peu de jansénisme d'une certaine manière, donc on a toujours entendu Dieu punit si on fait mal les choses, si on pêche, Dieu punit et puis il sauve aux bonnes actions, chose que moi j'avais beaucoup de mal à entendre. Et du côté de ma maman, c'était plus une volonté de réussir socialement, il fallait avoir du pouvoir, un discours sur la sexualité très débridé, c'était l'argent avant tout, donc pas du tout d'éducation religieuse pour ma maman, donc ma maman ça n'a jamais compté vraiment pour elle non plus à l'époque, donc nous on a grandi avec ça, sans Dieu en fait d'une certaine manière.
Et vous avez vécu aussi un début de collège assez difficile, vous racontez dans votre ouvrage.
Oui. Alors en fait, au collège, j'étais ultra introvertie, j'étais vraiment première de classe, j'avais un an d'avance, j'étais un peu le bouc émissaire un peu facile. Et du coup, en fait, j'ai subi du harcèlement moral pendant plusieurs mois. Parce que justement, j'étais la petite première de classe, j'étais déléguée, j'étais tout ce qu'il fallait pas en fait. Et comme mon nom de famille est un nom qu'on appelle les noms à rallonge, puisque c'est le rouge de Guerre David, c'était tout de suite un peu plus facile de pouvoir charrier là-dessus. Ce qui fait que très vite, j'ai subi du harcèlement, ça a commencé à tourner sur les réseaux sociaux, ça a commencé à être... En fait, j'allais au collège la boule au ventre, je partais, je pleurais, je rentrais, je pleurais. C'était vraiment un collège hyper difficile.
Jusqu'à ce qu'une professeure quand même vous sauve.
Ouais, il y a eu une prof d'anglais qui m'a fait sortir de cours un jour et qui m'a dit « Écoute, on va en parler ». Puis pour moi, c'était un peu un ange gardien qui arrivait et qui m'a sorti du harcèlement, ça a pu cesser.
J'ai l'impression que le Seigneur, en fait, déjà là, même si vous ne le saviez pas, en fait, il vous sauve d'une situation difficile d'un point de vue humain, de vos propres forces, vous n'y arriviez pas. Et c'était le Seigneur qui devait intervenir et qui vous sauve. Comme s'il vous préparait un petit peu à ce que vous alliez vivre plus tard. Mais on ne va pas divulguer trop tôt la suite. Donc voilà, votre adolescence se poursuit. Et arrivé en 2013, vous êtes en troisième. Et vous faites un voyage à Lourdes qui va tout faire basculer. Alors racontez-nous ce qui se passe.
En seconde.
Pardon.
2013, c'était déjà en seconde.
Mais alors pourquoi vous y allez déjà pour commencer? Alors, vous n'êtes pas croyante.
En fait, j'étais pas. Enfin, en seconde, j'ai eu une période un peu difficile. Moralement parlant. Je voyais pas mal de choses autour de moi. Mon père coulait son entreprise. Mes parents, c'était un peu difficile à la maison. Et à un moment donné, j'allais vraiment mal. Et souvent, on croit que quand on a 14, 15 ans, comme si on ne comprenait pas les problèmes de la vie. Alors oui, certes, on n'a pas une compréhension totale, mais on sent bien quand ça ne va pas à la maison.
Ouais,
et voilà. Et puis à côté de ça, il y avait pas mal de deuil. Je voyais les frères et sœurs de mon grand-père qui décédaient. J'avais un gars du collège qui s'était suicidé après le Nouvel An. Enfin, je me posais beaucoup de questions en me disant, mais c'est quoi le sens de la vie, en fait, d'une certaine manière.
Il y a un deuil en particulier qui vous avait complètement révolté.
C'était celui de la meilleure amie de ma maman. Et c'était juste avant mon entrée en seconde, en fait. C'est la seule qui me parlait de Jésus, en fait. Elle disait, oui, Jésus, c'est mon ami, c'est... celui qui partage mes joies, mes peines, mes souffrances, et elle rendait cette personne réelle, en fait. Et moi, j'avais l'impression que c'était quelqu'un comme si elle l'invitait à manger chez elle le midi et que c'était son pote de tous les jours. Et moi, je me disais, waouh, c'est fou de ne pas avoir une personne, mais d'être aussi proche de lui.
Et elle tombe malade.
Voilà, elle a un cancer foudroyant.
Et elle meurt malgré son amour pour Jésus. Ça vous révolte.
Et moi, là, ça a été le truc en mode... Elle m'avait donné un espoir de croire en Dieu, elle m'avait donné un peu cette autre perception des choses par rapport à ce que ma famille pouvait dire. Et en fait, quand elle est morte, pour moi, c'était Dieu.
Il ne l'a pas sauvée, voilà, il ne l'a pas.
J'ai commencé à beaucoup blasphémer à ce moment-là parce que pour moi, c'était une aberration et de dire si son Jésus il pouvait tout, il aurait pu la sauver et il ne l'a pas fait. Et donc là, pour moi, ça a été vraiment difficile. Ce deuil-là a été vraiment dur et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps. Et en plus, dans notre famille, on n'est pas les rois de la démonstration des émotions. Parce que dans la famille, pleurer, c'est pour les faibles, etc. Donc c'est vrai que c'était difficile aussi de pouvoir en parler avec les parents et de dire que oui, ça ne va pas. Donc en fait, moi, je me suis dit, c'est quoi le sens de la vie, en fait, dans tout ça? Est-ce que finalement, vous ne pouvez pas mieux mourir? Parce que ça ne sert à rien, en fait, de vivre si c'est juste pour souffrir toute sa vie sur Terre et juste aller pas bien. Je ne vois pas l'intérêt de vivre, en fait. Et j'ai commencé à poser un peu ces questions-là et à me dire, mais finalement, j'ai commencé à broyer pas mal de noir, en fait, à cette époque. Et il y a une professeure qui est venue me voir un jour et qui m'a dit, écoute Julie, faudrait qu'on discute. Et je lui ai dit, on va discuter de quoi? Et elle m'a dit, juste reste, parce que t'as pas l'air très bien en ce moment. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai. Et elle m'a dit, écoute, est-ce que tu crois en Dieu?
Et je lui ai
dit,
voilà.
Elle m'a dit, j'ai une question à te poser, c'est est-ce que tu crois en Dieu? Et en fait, j'ai beaucoup ri, je l'ai presque insultée en me disant que c'était n'importe quoi, que je voulais pas entendre parler de ces choses-là, et voilà. Et je suis sortie de la salle, et je croise un surveillant qui me dit « Julie, j'ai une question, c'est est-ce que tu crois en Dieu ?» Je dis genre « ça va, vous êtes liguée contre moi, vous avez fait un truc, et vous êtes concertée, vous êtes en train d'essayer de me convertir, ça s'appelle du prosélytisme. » Et en fait, il m'a dit « mais non, pas du tout, c'est juste que j'ai l'impression que tu vas pas bien, et moi, tu sais, quand j'étais jeune... Mon père, il me battait, mais il me battait tellement fort que, en fait, on a porté des marques. Et puis plus tard, mon frère, quand c'est ressorti, mon frère s'est suicidé. Et en fait, Dieu m'a sauvée.
Ah oui.
Et je lui ai dit, ok, c'est cool, il sauve tout le monde, mais moi, il m'a pas sauvée. Donc en fait, ça m'a encore plus mis en colère contre Dieu. Et j'étais là, genre, ok, c'est bien, tu sauves tout le monde, mais moi, en fait, on a rien à faire de moi.
Et alors, pourquoi Lourdes? Parce que là, on voit vraiment pas.
Et voilà, et en fait, pour faire durer le suspense, en fait, à ce moment-là, j'ai une ancienne amie qui est venue me voir et qui m'a dit, écoute, Julie, en fait, là, on est en train de préparer notre confirmation. Est-ce que tu voudrais pas rejoindre le groupe? Tu sais, c'est tous les copains, etc. J'ai dit, en fait, tout le monde me parle de Dieu, donc peut-être à un moment donné, il va peut-être falloir que j'aille interroger qui est ce Dieu, en fait, finalement. Et donc, j'ai intégré le parcours, et puis finalement, c'est retrouvé à Lourdes pour le pèlerinage des confirmants, donc en juillet 2013. Et là, ça a été un peu le début de, de mes aventures avec Dieu, où là, ça a été un supplice dans le quart d'entendre des gens faire un chapelet à longueur de temps. Et je me disais, ils sont complètement malades, ça sert tellement à rien de faire des trucs pareils. Et les prières à la chaîne, pour moi, c'est stupide, machin. Et puis, ils chantaient des chants de louange, mais alors des trucs. Je me disais, mais ça va, quoi. J'avais l'impression de revoir le film La vie est un long fleuve tranquille avec le prêtre et sa guitare qui chante Jésus revient. Et voilà, et je me suis dit, mais ils sont complètement tarés. C'est ça, croire en Dieu. On dirait juste des timbrés, quoi. Et on est arrivé, et puis là, ils nous disent le programme de la semaine, donc messe tous les jours à 9h. Et moi, je me suis dit, alors déjà, j'y vais à Noël et à Pâques, ça me suffit largement. Mais alors, tous les jours, même pas en rêve. Et en fait, je commençais à râler. Et le prêtre, il m'a dit, écoute, t'es là. À un moment donné, soit tu décides d'accueillir les choses et de les vivre avec nous, soit en fait tu décides de les rejeter, mais dans ces cas-là, t'as rien à faire ici, enfin, ce qui était vrai. Et je dis oui, c'est vrai, de toute façon, maintenant, tant qu'à être là, autant le faire jusqu'au bout, et je vais essayer d'arrêter de râler, mais moi, ça me barbe, en fait. Mmh. Et puis, à un moment, à la fin du pèlerinage, mes copains me disent... Ouais, toujours à la fin, Dieu attend toujours la dernière minute.
C'est
<vrai. rire> Sinon, c'est pas drôle.
Il vous laisse bien mariner.
Ouais, c'est ça, il laisse bien le truc. J'ai bien le temps de m'énerver pour capituler encore mieux.
Oui, il vous propose une nuit d'adoration.
C'est ça, il vous propose une nuit.
Le niveau supérieur. Et
mais
vous acceptez.
Je me dis, mais en fait, non, j'ai pas vraiment eu le choix parce que, en fait, on dormait sous tente. Et c'était au moment des inondations de Lourdes, en plus. Enfin bref, rien n'allait de toute manière. Il pleuvait, c'était horrible. Et vraiment le calvaire jusqu'au bout. Et puis moi, alors j'ai beau habiter à la campagne, mais je suis pas trop la fille qui aime dormir dehors dans une tente. J'aime bien mon confort. Et en fait, mes copains m'ont dit, on s'est inscrit à 3h du mat, on t'a inscrit avec nous. J'étais genre, ouais, c'est ça, j'irai peut-être demain, mais moi, je veux pas venir à votre truc. Et puis déjà, je sais même pas ce que c'est l'adoration. J'y comprends rien à vos trucs et tout ça. Et ils m'ont dit, écoute, on t'a inscrite, c'est bon, tu viens avec nous, t'arrêtes de râler, ça commence à bien faire, quoi. Et à 3h, un peu avant 3h du matin, ils ont ouvert ma tente et ils m'ont dit, maintenant que t'es réveillée, tu vas venir avec nous. Et donc là, je suis arrivée, j'ai enfilé un pauvre jogging, je suis partie à la grotte, en fait. On est descendu, on est allé jusqu'à la grotte. Et j'ai mes copains, ils m'ont dit, Julie, là, en fait, pendant une heure, ça va être en silence, donc maintenant, tu te tais, quoi. C'était genre, oh là là, ça fait tellement long, une heure en silence, non mais les gars, enfin voilà. Et puis en plus, je comprends pas, parce qu'il y a des caméras à côté de la grotte, enfin, tu sais, le truc, il va pas partir en courant, enfin, genre, à la limite, les gens, ils seront peut-être intéressés pour voler un truc en or, mais bon, faut pas déconner, on a pas besoin de le surveiller. Et en fait, ils m'ont dit, écoute... c'est pas vraiment ça, en fait, c'est Jésus, faut veiller et tout. J'étais genre, oui, vous expliquerez à d'autres personnes qu'un bout de pain est Jésus, et puis moi, ça marche pas avec moi. Et en fait, j'ai un copain qui m'a dit, écoute, je te donne mon chapelet, là, je te fais un chapelet. Et moi, j'étais genre, mais je connais pas le Notre Père, je connais pas le Je vous salue Marie, je vois pas ce que je vais aller te faire un chapelet. Et en plus, il fallait commencer par le credo, alors là, c'est même pas la peine d'y penser. et en fait, il m'a dit, mais... juste, en fait, tu vois, dans nos livrets, il y a tout le guide du chapelet, donc je te donne mon livret, tu vas le faire. Et moi, je vais aller m'asseoir plus loin, parce que sinon, tu vas pas arrêter de parler, et il faut juste que tu pries en silence, joue le jeu et tout ça. Et là, je me suis dit, OK.
C'est bien, vos amis, hein.
Ouais. Et en fait, j'ai dit, OK. Et j'ai dit à Dieu, écoute, c'est simple, là, je suis là, en fait, et j'ai fait un effort et je suis venue. Donc maintenant, c'est le moment ou jamais, je suis là. Donc soit tu te manifestes maintenant et là je te donne ma vie et il n'y a pas de problème, je te suis et je ferai tout ce que tu veux que je fasse. Mais si tu ne te manifestes pas, toi et moi, on sera de parfaits inconnus et plus jamais de ma vie, je mettrai les pieds dans une église parce que pour moi, ça rime à rien en fait. Enfin, je me suis endormie avec mon chapelet dans la main là. Et en fait, 15 minutes après, j'ai commencé à être vraiment visitée. À la fois, je sentais une chaleur à l'extérieur de moi qui m'enveloppait, et en même temps, c'était à l'intérieur de moi comme vraiment une chaleur hyper bienveillante. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment aimée plus que tout au monde. J'avais l'impression que je comptais tellement à ses yeux et plus que n'importe qui, en fait. Et j'ai entendu juste cette parole qui disait « Ne t'inquiète pas, je suis toujours avec toi ». Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment la conviction que face à moi, oui, c'était Jésus qui était là et qui était en train de me parler. Et en fait, j'ai passé le reste de ma nuit à pleurer parce qu'en fait, moi qui n'étais pas du genre à montrer mes émotions ou quoi, en fait, là, c'était vraiment un amour inconditionnel et infini où je me dis, bah, wow, j'ai l'impression d'être la petite perle précieuse et unique à ses yeux, alors que moi, j'ai passé mon temps à blasphémer, en fait. Et malgré tout ça, en fait, il m'aime plus que tout au monde. Et donc, le lendemain, on a eu la messe. Et là, pour la première fois de ma vie, je comprenais, en fait, ce qui se passait devant mes yeux, comme si j'avais une révélation de ce qui se passait, que c'était Jésus qui se donnait. Et là, pour moi, ça a été un changement radical.
Oui, c'est ça que je me demande. Vous avez donc un signe incroyable. Est-ce que, oui, c'est ça, ça change votre vie ?
Bah là, oui, ça change totalement ma vie. Ce qui, pour moi, était sans espoir devient... je me dis, bah, en fait, toute ma vie, je cherchais un sens à la vie, finalement. Et avec Dieu, en fait, je me dis, mais en fait, ouais, j'ai été créée, j'ai été choisie. Et en fait, il m'aime et... Et il ne m'a pas abandonnée, et moi aussi il m'a sauvée, moi aussi il peut me sauver, moi aussi il peut faire les choses pour moi, parce qu'en fait il est là et il me tient la main, et en fait il m'a dit « ne t'inquiète pas, je suis toujours avec toi ». En fait. Et c'est vraiment, quoi que je fasse, bah, au moins je sais qu'il est avec moi, je sais qu'il veille sur moi, je sais qu'il marche avec moi. Donc là ça a été pour moi un changement radical. Oui, là je suis passée de la fille athée à la fille catho, catho plus plus quoi.
C'est ça, vous avez la certitude que Dieu existe, là c'est sûr, il vous l'a dit, il ne vous a jamais abandonné, il n'a pas abandonné cette femme, cette tante de cœur qui est décédée, ouais. Mais il était là avec elle. Mais par contre, une transformation de vie, ça ne se fait pas quand même en un claquement de doigts. Je pense que ça se fait par étapes, ce n'est pas encore tout de suite que vous changez radicalement
non.
de vie.
Ouais, non, là j'ai eu une petite étape par étape, hein, parce que c'était tout nouveau pour moi aussi. J'avais une grande soif et un grand désir d'aller à la messe, par exemple. Sauf que quand on habite en campagne et que la plus proche église elle est à 10 km, bah, il faut demander aux parents de nous emmener en leur expliquant pourquoi. Mais en même temps, on ne peut pas vraiment leur expliquer parce qu'ils ne sont tellement pas ouverts à ce genre de sujet que c'est même pas la peine. Papa, s'il suffisait de lui dire le mot Dieu, on avait l'impression de lui coller une claque et qu'il réagissait à chaud. Mmh. Enfin, c'était hyper difficile en fait de cheminer. Donc je pouvais jusqu'à la confirmation dire il faut que je prépare, donc il faut que j'y aille parce qu'il faut que je comprenne les choses et tout ça. Et puis quand la confirmation est passée, mes parents disaient mais ça y est, maintenant que c'est passé, ça va, on va pas te ramener tous les dimanches à la messe non plus quoi. Mmh. Donc là je me suis dit, mince, comment je vais faire bon. Et puis, mon surveillant en question, qui m'avait vachement impacté, s'est engagé dans les foyers de charité. Donc, il est parti comme membre des foyers de charité à Tressin. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, si on organisait un petit week-end pour aller lui rendre visite. Et puis, on y est allé. C'était le week-end de la miséricorde divine en 2014. Donc, c'était un 26 avril 2014 où là... En fait, il y a eu un nouveau temps d'adoration. Donc là, je me suis dit, ah, ça, c'est mon moment.
C'est pour moi,
c'est pour moi. Il faut que j'y aille. Maintenant, je sais ce que c'est. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, maintenant, ça va faire presque un an que j'ai vécu ça. Mais concrètement, il ne s'est rien passé de plus dans ma vie. Enfin, je veux dire, je n'ai pas eu d'autres manifestations. J'ai pas eu de... Je me suis dit, mince, enfin, il ne m'a pas abandonné, certes. Mais bon, il n'est quand même pas très présent non plus. Quoi. Genre, j'aimerais bien qu'il me parle un peu quand même. Enfin, voilà. Et comme on ne m'enseignait pas l'importance de la lecture de la Bible, bah, ce n'était pas quelque chose d'inné chez moi. Enfin, je n'avais pas compris à quel point c'était la parole de Dieu. Enfin, en fait, il y a plein de choses où on n'est pas assez enseigné, à mon sens en tout cas. Enfin, voilà.
Et vous attendiez à ce qu'il vous parle.
Et moi, je me suis dit, bah, là, c'est mon moment. Quoi. Enfin, il faut que j'aille à l'adoration. Et là, ça a été une deuxième étape qui a été très importante pour moi, parce que là, ça a été le début d'un basculement total où je suis allée à l'adoration et j'ai dit à Dieu, bah, écoute... C'est le moment ou jamais de m'envoyer un signe, parce que moi, je suis encore là, tu vois. Je suis tenace, je viens. J'ai organisé ce petit truc pour revenir ici. Enfin, voilà, il faudrait juste que tu m'envoies un petit signe pour être sûr que je ne suis pas devenue complètement timbrée à Lourdes, quoi. Et en fait, le Saint-Sacrement s'est mis à briller, 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 briller. Et en fait, du Saint-Sacrement est sorti Jésus, homme, devant moi. Et en fait, il s'est approché de moi, il m'a pris les mains, il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je suis et je serai toujours avec toi ». Et en fait, juste en voyant son regard, j'ai passé ma nuit dans la chapelle à pleurer, 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 pleurer. Parce que en fait, c'était tellement un regard d'amour en disant « mais je suis encore là ». Enfin, tu vois, et j'avais besoin de ces signes-là pour être sûre aussi. Et quand je suis rentrée chez mes parents après ça, enfin, d'abord je suis allée parler à un prêtre parce que je me suis dit « attends, peut-être j'ai une hallucination, là ça va ». Et le prêtre m'a dit « non, ça arrive, voilà, ça peut arriver en effet ». D'avoir des manifestations comme ça, ou de voir Jésus, c'est un cadeau, etc.
C'est quand même rare, on en entend peu souvent quoi, des personnes raconter des signes aussi forts. Comment vous comprenez, vous, que ça vous arrive? Qu'est-ce que ça fait naître comme sentiment chez vous?
Ah bah là, ça a été un... Là, je me suis dit, bah, ça y est, maintenant, je suis prête à tout et je reculerai devant rien. Et tout... enfin, je veux juste donner ma vie à Jésus et c'est tout. Et en fait, pour moi, ça a été l'élément qui a fait que bah, là, je suis passée de... Enfin, je suis vraiment rentrée chez moi en disant à ma mère... En fait, ma mère était en burn-out à ce moment-là. Et je lui dis, bah, écoute, il faut que tu ailles à Tressin. Parce qu'en fait, tu vois, là-bas, c'est en silence. Personne ne va te parler. Tu vas voir, c'est juste bien. Tu vas te reposer. Et tu vis avec la communauté et tout ça. Enfin, voilà. Et ma mère, elle s'est dit, OK, j'y vais parce qu'on va me foutre la paix. Et en fait, elle n'avait pas compris qu'il y avait des enseignements, que c'était catho à ce point-là, quoi.
Retraite fondamentale.
Et en fait, elle s'inscrit en retraite fondamentale, sans comprendre vraiment ce qu'elle faisait, quoi. Et en fait, quand elle est rentrée à la maison, elle m'a dit, bah, écoute, Julie, en fait, j'ai rencontré Jésus.
Non.
Et donc, ma mère s'est convertie.
Votre mère, ouais. Ah oui.
Qui n'avait pas d'éducation religieuse du tout. Voilà, c'était un monde opposé à la religion, pour le coup, vraiment. Et maman, en fait, s'est convertie. Et là, donc, on a pu commencer à cheminer ensemble, en fait. Donc là, ça a été le début de nos aventures.
C'est trop beau,
et donc,
merci.
Voilà. Et puis, papa comprenait rien parce qu'il voyait... Enfin, le dimanche, on passait de la grasse mat à se lever pour aller à la messe et à aller prier, aller à des temps de prière. On allait à des conventions. Enfin, et en fait, ça a totalement bouleversé. Enfin, mes parents étaient un peu dans un style, il faut avoir une apparence clean, il faut toujours bien faire, on recevait très peu de monde chez nous, enfin c'était voilà, c'était club de jeux de société et compagnie, quoi. Enfin, c'était vraiment voilà, enfin club de lecture, club de jeux de société, club de trucs, enfin voilà, c'était
c'est
très très select et c'était très les réseaux mondains, en fait. Et en fait, à un moment donné, maman, c'est Dieu est passé en priorité. Et en fait, c'était un trop grand amour de Dieu. Donc en fait, elle a dit, mais moi, je peux pas passer ma vie à faire ça. Ça colle pas, en fait, avec Dieu. C'est bien d'être dans les trucs de mondanité. Mais en fait, l'apparence, on s'en fout, en fait.
Enfin, elle a changé de vie, du coup.
Et oui, et maman a totalement changé de style, de vie. Enfin, c'était assez surprenant. Et donc, elle a fait sa confirmation. Donc du coup, j'ai été sa marraine de confirmation.
Mais non, c'est
donc c'est moi qui l'ai présentée à l'évêque.
Incroyable.
Voilà, donc c'était assez dingue, en fait.
Donc une conversion de famille. Et souvent, quand le Seigneur, je pense que quand le Seigneur voilà, appelle quelqu'un, enfin convertit quelqu'un, c'est aussi pour lui indiquer une mission, c'est pour quelque chose, il l'envoie. Et vous, ça se manifeste encore une fois par une vision. Vous avez à ce moment-là 18 ou 19 ans ?
18.
18 ans, vous êtes vraiment toute jeune.
J'étais un bébé.
Et vous étiez revenu des JMJ de Cracovie, qui avait été à un moment très fort.
Ouais, en fait, je suis partie au JMJ avec les franciscains et là-bas, je me suis dit, mais en fait, 3 millions de jeunes qui passent une nuit entière à prier, le pape vient, enfin, je me suis dit, comment on peut rentrer indifférent de ça? Et le pape avait invité à se lever de nos canapés. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, est-ce que, après une rencontre comme ça, est-ce que je décide d'avoir une vie normale et bien rangée dans des cases et je m'implique pas plus que ça parce qu'on sait jamais? Et en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de tout donner? Comme Dieu m'a tout donné, est-ce que moi aussi j'ai envie de passer ma vie sur Terre à pouvoir faire le maximum pour le faire connaître, en fait? Et en fait, je suis rentrée et puis maman a été diagnostiquée avec un cancer. Donc là, ça a été un peu le début de « mince, qu'est-ce qu'on fait ?» Et en même temps, on avait la foi. Donc on a prié, on a dit à Dieu « bah voilà, en fait, que ta volonté soit faite. » Et en même temps, tu peux guérir. Donc j'avais la foi qu'en effet, elle allait guérir. Et puis j'ai une prof de droit qui m'a dit « écoute, viens dans mon église évangélique. » Et en fait, on a un temps de guérison. Donc si tu veux, peut-être que ta maman, le Seigneur va la guérir ce jour-là. J'ai dit, bon, bah, en fait, ça me coûte rien, hein, donc on y va. Et pendant le temps de louange, là, je me dis, waouh, ça, c'est de la louange évangélique. Et là, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas ça dans nos églises? En fait, c'est juste dingue. Moi, je veux vivre de la louange comme ça tout le temps, en fait. Ça transcende, en fait. Et à ce moment-là, j'ai une copine à côté de moi, bam, qui se convertit direct pendant la louange.
Ah oui.
Je la vois se mettre à pleurer, elle donne sa vie à Jésus. Moi, j'étais en train de pleurer. Et en même temps, j'ai dit à Dieu, mais je te demande tellement pardon pour mon orgueil de catho d'avoir cru que t'étais que chez nous, parce qu'en fait, t'es aussi bien présent ici. Et à partir d'aujourd'hui, je ferai ce que tu veux quand tu veux. Et dans l'unité des chrétiens, je passerai ma vie à œuvrer pour et dans l'unité des chrétiens. Et tu me demandes ce que tu veux quand tu veux. Et moi, je m'exécute, quoi. Et en fait, j'ai reçu une vision à ce moment-là d'un immense champ, d'une tablée, de Jésus au centre. Et il y avait des tout petits enfants, il y avait des adolescents, il y avait des papis et des mamies, il y avait des parents. Et tout le monde se rassemblait autour de Jésus, en fait, pour l'écouter parler. Et à côté, il y avait une petite scène avec de la musique, style louange, quoi. Donc je me suis dit, bon, bah ok, on va faire un petit festival dans l'unité des chrétiens, en pleine campagne. Et on va monter ça dans mon petit bled, là, parce que je sentais qu'il fallait que ça reste vraiment en ruralité. Et j'avais vraiment la ferme conviction que ça devait se faire à Frénier. Et en fait, du coup, j'ai monté ça, j'avais 18 ans. Et puis à 20 ans, la première édition est apparue. Et en fait, là, on a reçu 1000 personnes pour la première édition dans un tout petit village de 1000 habitants. Donc, on a doublé la population.
Et à l'issue de ça... Pourquoi le Seigneur vous demande ça à vous? Vous n'avez que 18 ans.
Parce que Dieu choisit la jeunesse.
Et en plus, vous dites dans votre livre que vous êtes très timide. Ouais. Ça paraît complètement fou.
Oui, mais vraiment. Mais c'était dingue parce que vraiment, c'est vraiment les versets. C'est quand je suis faible que je suis fort. Mais parce qu'en fait, quand je suis faible, Dieu se glorifie. Et dans nos fragilités, dans nos faiblesses, Dieu vient se glorifier. Et en fait, je me disais, mais à chaque fois, c'est aussi pour prouver que ça ne vient pas de moi et ce n'est pas Julie Lerouge qui fait son festival, mais en fait, c'est Julie Lerouge qui a une vision et qui essaye d'accomplir les plans de Dieu. Et en fait, ça a été fou parce qu'en effet, maintenant, Dieu m'utilise pour aller parler, pour aller exhorter, pour parler devant beaucoup de gens. J'interviens quasiment toutes les semaines dans des établissements scolaires différents.
Elle est loin, la Julie.
La Julie timide, voilà, c'est ça.
Introvertie des débuts.
Mais voilà, c'est ça.
Bon, alors, ça a l'air complètement merveilleux, etc. Mais quand même, en fait, l'appel du Seigneur vous demande un changement de vie et une certaine radicalité. C'est quand même pas. vous le racontez de façon assez drôle dans votre livre. Vous écrivez. J'étais la grande spécialiste du compromis. Je me disais, waouh, Dieu m'a choisi pour faire un festival. D'une certaine manière, je me sentais assurée. Je me donnais bonne conscience en me disant que s'il m'avait demandé cela, c'est qu'il m'aimait comme j'étais et que je pouvais continuer à mener ma petite vie tranquillement. C'est pas du tout le cas, en fait.
Non, pas vraiment. En fait, il y a un moment donné où, quand Amène-toi a été monté. Voilà, Amène-toi a pris une énorme ampleur, tout de suite les gens étaient à fond, on a eu des centaines de témoignages de conversion, de vie changée, mon père et mes frères s'étaient convertis, donc moi j'avais l'impression que toute ma famille s'est convertie, là c'est autour de mes oncles et de mes tantes, mes cousins sont en train de changer, enfin Dieu est en train de faire un truc de dingue dans ma famille. Et en fait je me disais, mais ok, c'est cool, donc Dieu ça veut dire qu'il il compose avec ça, et en fait c'est trop bien, il m'aime comme ça, donc moi je peux mener ma vie étudiante très tranquillement, et voilà. Et en fait j'ai plein de blessures d'enfance qui remontaient en même temps, et en fait souvent j'avais une tendance à un peu être la reine de la fête et des soirées étudiantes, donc tous les barmen je pense de ma ville étudiante à l'époque doivent bien me connaître, et en fait j'étais la grande spécialiste de dire allez là ce soir on sort, et pourtant j'avais une double licence, on avait 40 heures de cours par semaine, mais juste il y avait besoin de sortir et on avait besoin de se défouler aussi,
besoin de décompresser.
Et voilà, et un jour je sors d'un bar et j'avais un verre à la main, on était tous bien bien éméchés, et puis en fait le Seigneur il me dit, mais Julie, dans ton état actuel, quelle est ta crédibilité de prétendre me servir? Et là je me suis dit, aïe, ah oui, ça fait mal par contre, hein. Et ça pique. Et en fait je suis rentrée, j'ai posé mon verre, je suis partie chez moi et j'ai dit à mes copains, désolé, faut que je rentre chez moi. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, on était censé faire toute la nuit. J'étais genre non, pas ce soir. Et en fait je suis rentrée et pendant tout le chemin j'étais là en train de comprendre à quel point on devait aussi marcher dans la sainteté, et en fait le Seigneur est en train de me faire comprendre que si par exemple là, il y a quelqu'un qui est venu au festival Amène-toi, qui a vu sa vie changer et qui te voit dans cet état-là. Toi, t'as quelle crédibilité, en fait? Et c'est quoi, du coup, tu peux même pas être un modèle vraiment chrétien à prêcher, d'être saint, d'être, de pas être dans les excès, de... Et je me suis dit, ouais, en fait, j'en suis loin, quoi. Et je suis vraiment mais toute petite. Et en même temps, Dieu, il m'a pas dit ça dès le départ, parce que sinon, j'aurais balisé et je me serais dit, mais il est taré, quoi. Et en fait, non. Et c'était vraiment étape par étape, mais parce qu'il m'a enseigné en même temps. Et je me suis dit, mais en fait, on a le droit aux erreurs aussi. On a le droit d'être à son rythme. Et Dieu, il compose aussi avec notre humanité, quoi. Enfin, voilà. Sinon, il y aurait rien qui existerait, parce qu'on est tous humains, pécheurs. Et voilà. Et Dieu, il m'a enseigné au fil du temps. Et là, je me suis dit, ah oui. Donc là, j'ai décidé de mener une vie radicale pour le coup, et de rentrer dans cette radicalité de vie, parce que du coup, je suis partie de mes études, j'ai pris mon année sabbatique, j'ai fait 30 jours de retraite en silence, les exercices de Saint-Ignace, c'était ça change une vie.
Et en fait,
progressivement, après, je suis partie faire une école d'évangélisation chez des frères évangéliques pour aussi apprendre à vivre avec eux au quotidien, parce que en fait, sinon, comment on peut connaître ses frères si on ne vit pas avec eux? Et Dieu m'a vraiment enseigné pendant tous ces temps-là, où je me suis dit, mais en fait, oui, on doit être un modèle. En fait, quand on devient responsable d'un mouvement, quand on devient, dans les milieux évangéliques ou charismatiques, ils appellent ça des leaders, mais en fait, quand on devient responsable et qu'on est en poste en responsabilité, on devient visible. Et à partir de là, on se doit d'être un modèle. En fait, comment on peut dire à quelqu'un, délivre-toi de tes addictions, puis il nous croise dans la rue, on est complètement éméché. Enfin, du coup, il n'y a pas de cohérence, mais en fait, Dieu nous appelle à une cohérence de vie, à une vie sainte.
Mais souvent, quand on se convertit, on a généralement une période tout feu, tout flamme, on rencontre des succès. Il y a ces deux éditions du festival Amène-toi avec plus de 1000 participants au milieu de la campagne. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis après, il peut y avoir une période d'aridité, des épreuves. Il y a cette pandémie qui met fin pendant 2 ans à ce festival. Vous avez aussi lancé un projet d'école d'évangélisation, la Maison de David, qui prend un peu plus de temps, parce que voilà, c'est très long, il y a des travaux, enfin, c'est un peu long. Donc, comment vous vivez ce temps un peu long, un peu aride de l'après-conversion ?
Moi, je dirais pas que ça a été aride pour ma part, parce que en fait, j'ai jamais autant bossé que pendant le confinement. En fait, c'était vraiment un temps où, en fait, quand la pandémie a commencé, j'étais en Afrique auprès des enfants des rues. Donc là, c'était une période plus difficile parce que quand le Covid a émergé, etc., c'était vraiment compliqué. Et quand je suis rentrée, évidemment, il y avait toutes ces questions de comment on va faire, est-ce que le festival va pouvoir avoir lieu ou pas. Et donc là, c'était hyper fatigant de pas savoir, en fait. C'était vraiment fatigant. Et puis ensuite, j'ai repris mes études en théologie et philosophie. Donc j'ai quitté le monde juridique, je suis partie en théo. Pour moi, c'était déjà... c'était vraiment... nouveauté. Donc moi, j'aime bien les nouveautés. Donc c'était cool, je découvrais autre chose. Donc j'étais dans un autre mood. Après, c'était plus difficile parce que quand on a une cinquantaine de personnes qui travaillent avec nous dans l'association, pour le festival et tout, il fallait être aussi là pour eux. Il fallait savoir donner les bonnes directives. Mais moi, j'en savais rien. Donc de ce point de vue-là, ça a été difficile. Mais ça nous a permis aussi de lancer des choses en ligne. Ça a été le début. On a vu plein de lives émerger sur les réseaux, etc. Et donc là, nous, on s'est consacré aussi à la partie des réseaux sociaux, où en fait, on a vu qu'il y avait plein de jeunes qui venaient nous trouver pour dire en fait, je suis tombée dans telle addiction, je suis tombée là-dedans, comment je peux faire? Là, j'ai commencé à me lancer dans des vidéos de pornographie, comment je peux m'en sortir? Et en fait, ils avaient juste soif d'entendre parler de Jésus et que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux pendant le confinement. Et en fait, donc nous, on a essayé d'être un peu sur les réseaux. Puis c'est pas trop mon truc, les réseaux, donc ça me barbait un peu au début, mais je me disais, mais c'est essentiel d'y être. On a lancé des lives, on a fait intervenir pas mal de monde. Donc en fait, on s'est vachement consacré à ça, et puis là, ça a été le temps de mettre en place la Maison de David, en fait, donc c'était le temps favorable. Enfin, moi, j'étais là, ça pouvait pas tomber mieux comme confinement, parce que du coup, ça m'a permis de me poser. Et chose où je suis un peu, on me connaît, j'ai un peu 40 000 projets sur le feu, et en même temps, j'essaye de discerner lesquels il faut garder ou pas, parce que voilà, sinon on s'épuise et ça devient de l'activisme, et ça, c'est pas mon objectif. Mais de dire, en fait, Seigneur, ok, tu veux quel projet, parce que le festival peut pas avoir lieu, mais en même temps, on ne peut pas juste rester à l'arrêt, quoi.
Enfin, le Seigneur continue de vous répondre par locution intérieure comme...
Souvent par vraiment une conviction très très forte intérieure. Et puis après, j'ai un accompagnement spirituel, évidemment, où je peux en parler et puis on discerne ensemble. Enfin, en tout cas, mon accompagnateur m'aide à discerner ce qu'il faut ou pas. Et en fait, là, la maison de David émerge, c'est dans mon village, c'est à 3 minutes en voiture. Alors, du coup, c'était facile de pouvoir s'y rendre, de pouvoir regarder le truc en disant, alors, OK, il va falloir faire ça, 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 mais Seigneur, t'attends quoi? Et puis, vraiment, j'ai eu cette conviction de dire, mais en fait, c'est une école d'évangélisation. Enfin, plus précisément, j'aime pas le terme école d'évangélisation, mais de dire, c'est un lieu de formation et de formation pour équiper les jeunes aussi dans une vie de comment on met sa vie en cohérence et en même temps bah, dans le monde, une fois qu'on est dans le monde, on fait comment en fait pour continuer de vivre sa vie un peu tout feu tout flamme sans être un illuminé et sans être je sais pas, mais pour pouvoir continuer voilà, la mission en étant aussi bien dans le monde et bien incarné. Et en fait, il y a plein de sessions de danse, souvent on voit les danses d'Israël, mais il y a aussi des ministères de danse voilà, qui enseignent en fait, justement à rallier corps, âme, esprit au travers de la danse.
Vous, c'est vraiment l'unité qui vous parle, l'unité des chrétiens, l'unité de la personne, une cohérence de vie. On a bien compris que cette maison, ça sera l'unité.
Voilà, c'est ça.
Et aujourd'hui, est-ce que, avec un peu de recul, donc vis-à-vis de votre conversion, en quoi avez-vous été transformé par cette irruption inattendue du Seigneur dans votre vie ?
Tout. Je dirais tout, en fait. Tout a été changé. J'ai changé mes fréquentations. Mes amis sont pas les mêmes aujourd'hui. Enfin, moi-même, ma timidité, je garde toujours une part de timidité, mais en fait, comme la Bible, elle dit, c'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et ben, en fait, c'est ça aussi. C'est, voilà, enfin, c'est, je conduis mon association, ça tourne bien, j'ai mon livre qui est sorti. Donc, en fait, c'est, ma vie, elle a été changée dans un sens où aujourd'hui, je passe ma vie à parler de Dieu et voilà, et à essayer de marcher un peu dans les plans aussi qu'il a formé pour moi-même, quoi. Donc oui, je pense que ça a tout changé.
Vous disiez il y a 7 ans que votre rêve, c'était de faire carrière, d'avoir un beau job, etc. Aujourd'hui, quel est votre rêve ?
Je dirais que mon rêve aujourd'hui, je sais pas, je crois qu'il est un peu accompli d'une certaine manière, dans le sens où, oui, avant, je rêvais de faire carrière, je rêvais de faire des choses, en fait. Une belle carrière en droit, j'aurais aimé faire... avoir une dimension internationale, j'aurais aimé... me rendre utile, en fait. Je crois que c'était ça. Je pense que c'était aimer me rendre utile. Je dirais qu'aujourd'hui, mon rêve, c'est de... Enfin, je crois qu'il est accompli dans le sens où il y a la dimension internationale qui s'ouvre, puisque, même pour aller prêcher, je commence à recevoir des invitations d'autres pays pour aller prêcher dans leur pays. Donc, en fait, la dimension internationale, finalement, Dieu, il me la donne avec ça. Je me rends utile parce qu'en effet, avec la Maison de David, il y a aussi tout l'axe d'accueillir des personnes qui sont tombées dans des addictions. Du coup, je vais servir... En faisant ça, je contribue à pouvoir rendre la vie de certaines personnes meilleure, organiser des événements, j'aime trop ça. Et en fait, avec Dieu s'est servi de mes désirs pour aujourd'hui organiser le festival. Il y a la Maison de David, on organise des veillées louanges, des petits événements un peu ponctuels. Donc en fait, finalement, mon désir, c'est juste de voir ces gens rencontrer le Seigneur et en fait, c'est ça. Donc, je le vois tout le temps, quoi.
Alors, est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre conversion, qui l'a éclairé et que vous pourriez nous recommander ?
Le premier, je dirais que c'est la Bible.
Évidemment.
Et le deuxième, je crois qu'un livre qui m'a beaucoup impacté quand j'étais en... Enfin, il y a deux livres vraiment qui ont été des petits... sur mon chemin. Je dirais que le premier, c'était un petit livre avec Sainte Thérèse de Lisieux. C'était Une pensée par jour avec Sainte Thérèse de Lisieux qui a été vraiment pour moi juste un déclic. Et le deuxième, c'était Arraché à l'enfer de Laurent Guay.
Très fort.
Et en fait, j'avais vu Laurent Guay et je m'étais dit, ouais, ce gars est dingue. Et aujourd'hui, on bosse ensemble sur beaucoup de projets. Et aujourd'hui, c'est un peu comme un grand frère. Et en fait, son livre m'a juste complètement... bouleversée parce que je me disais, mais ce gars, en fait, il a une vie de dingue. C'était le gars dyslexique et en fait, aujourd'hui, il est auteur de plusieurs bouquins. Et en fait, je me dis comme quoi Dieu fait vraiment des grandes choses avec des toutes petites personnes qui sortent de bien loin. Donc ça a été vraiment un livre qui m'a boosté.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui est tiraillé entre le grand désir de suivre le Christ, de le servir, et puis la réalité du quotidien qui n'est pas toujours facile et qui est souvent à l'opposé de ça, quoi, de l'esprit du Christ.
Je dirais, lis mon livre. Non, plus sérieusement, oui, en fait, quand j'ai écrit mon livre, c'était aussi pour ça, parce que j'ai fait beaucoup de compromis et en fait, je sentais tellement le truc de dire, mais en fait, ça sert à quoi de faire des compromis, parce qu'il y a des choix à poser dans la vie. Et en fait, certes, en posant un oui à Dieu et en suivant la vie avec Dieu, bah ouais, ça demande à dire non à d'autres choses, non à l'esprit du monde et à tout ce que ça nous propose d'alléchant, et des choses qui aujourd'hui sont tellement normales aux yeux de tous. Et en fait, c'est difficile et ça peut générer des incompréhensions, ça peut générer des hostilités, ça peut... Voilà, combien d'insultes je me suis prise, je les compte plus, mais en fait, ouais, ça peut être difficile, mais en même temps, le plan de Dieu sur chacune de nos vies et ses promesses sont tellement plus dingues et encore plus incroyables que ce qu'on peut vivre dans le monde. Enfin, voilà, quand je vois des amis qui n'ont pas Dieu dans leur vie et qui sont juste dans leur truc de carrière, et en même temps, bah, ils passent leur vie à aller en boîte, et je me dis, mais en fait, je trouve ça tellement triste, quoi, parce qu'il y a tellement plus et plus de joie à aller un bon temps de prière avec des potes, à prier les uns pour les autres quand ça va pas, et on a une vraie espérance, et ça, c'est ma joie, et je me dis, mais en fait, des fois, il y a des choix à poser, et juste, si j'ai un conseil à donner, c'est se poser, et de dire, en fait, est-ce que toutes mes activités qui collent pas du tout avec Dieu, est-ce que finalement ça me procure une joie éphémère ou est-ce que ça me procure une joie durable ? Et quand je regarde ce que Dieu me promet, est-ce qu'en fait ça peut me procurer une joie éternelle, quoi ? Enfin, et de dire, bah, peut-être qu'à un moment donné, il y a des choix à poser en disant, bah, si je dis oui à Dieu, bah, c'est sûr que je renonce à d'autres choses. Mais en même temps, Dieu il a dit, les projets que j'ai formés pour toi, c'est des projets de bonheur et de paix et pas de tristesse, en fait. Et c'est pour une espérance à jamais.
Quelle est votre prière préférée et où celle qui a éclairé votre conversion ?
Alors, je dirais que j'ai deux, c'est pas des prières, mais c'est des versets que j'aime particulièrement. C'est mon verset préféré, c'est le Proverbe 4 au verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie ». Parce que pour moi, la notion du cœur, c'est tellement important. En fait, combien de fois on a été blessé parce qu'il y a des choses qui viennent s'imprimer sur nos cœurs. Et nos cœurs, c'est un peu comme des tablettes, en fait, on peut écrire dessus. Et je me dis, en fait, si toute notre vie, on entend des paroles horribles contre nous-mêmes, bah, en fait, ça va venir s'inscrire sur nos cœurs. Et finalement, c'est pas la vie qui va sortir du cœur, c'est que des pensées hyper tristes, hyper sombres. Voilà, et en fait, on vaut mieux que ça. Alors que si sur nos cœurs, on vient inscrire des belles choses, bah ouais, on peut vraiment faire jaillir la vie. Et sinon, il y a une autre phrase que j'aime beaucoup de Catherine de Sienne, qui dit « Si vous devenez ce que vous devez être, alors vous mettrez le feu au monde entier ». Et c'est juste, bah, deviens qui t'es appelé à être. Et en fait, quand on regarde la parole de Dieu, bah, on est appelé à être des grandes personnes et avec un cœur pur, un cœur d'enfant. Et juste, on est appelé à être des êtres de lumière. Et il y a la parole qui dit qu'on est sel de la terre et lumière du monde. Bah, pour moi, c'est ça, en fait. Et si on devient ce qu'on doit être, bah, on va pouvoir... ouais, on va mettre le feu au monde, quoi. Enfin, vraiment, ça peut être vraiment dingue, quoi.
Ma toute dernière question, c'est si le Seigneur était là en face de vous à ce moment, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre conversion ?
Waouh. Wow. Je sais pas, mais moi je lui parle tous les jours à Dieu. je lui parle tous les jours comme un papa, quoi. C'est mon papa du ciel, donc oui, enfin je sais pas, moi je dirais papa merci. je sais pas, pour moi c'est tellement normal en fait de lui parler tous les jours que je sais pas, je lui dirais juste merci de m'avoir mis une claque et de m'avoir emmené avec toi, quoi.
Un grand merci Julie pour ce très beau témoignage.
Merci.
Merci de nous avoir écoutés, j'ai été très heureuse de recevoir Julie Lerouge et je la remercie pour ce témoignage d'engagement radical et enthousiasmant à la suite du Christ. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts d'EFC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcasts,
Si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.
Un de vos proches se marie bientôt ? Offrez aux jeunes mariés un abonnement d'un an à Famille Chrétienne pour 85 euros seulement. Famille Chrétienne accompagnera au quotidien les jeunes mariés dans leur vie de foi et vie de famille. Ils recevront chaque semaine le magazine Famille Chrétienne et auront accès à nos milliers d'articles en ligne, aux podcasts, aux vidéos ou encore à une newsletter spéciale couple. Pour les abonnés, rendez-vous sur boutique.famillechrétienne.fr.